On va continuer donc ces entretiens avec le professeur Pierre-Philippe et Patricia Lagasse de son service. Les maladies donc d'Alzheimer et les malades pardon d'Alzheimer et les aidants souffrent, comme vous le savez, de troubles de sommeil qui s'accentuent généralement avec l'avancée de la maladie. Et justement, cet après-midi, vous allez nous présenter une application permettant d'améliorer la qualité du sommeil.
Alors, d'abord, merci pour l'invitation. Et un grand bravo aussi à vous d'être là, parce que ça veut dire qu'on est dans une démarche collective d'accompagnement pour essayer de faire avancer la science et puis aussi l'aide aux malades. Alors, c'est moi qui vais tout présenter parce que la rentrée a un petit peu changé. Donc, en fait, on m'a mis sur le dos de présenter l'ensemble du topo, mais je me permettrai de citer les travaux de mes collègues. Donc, moi, je suis le chef du service universitaire de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux. Et j'ai dirigé pendant 10 ans une unité CNRS qui s'appelle SAMSI, et je m'occupe encore d'un des axes de cette unité qui est l'axe numérique, où on essaie de développer des outils dédiés à l'accompagnement des patients, en particulier dans le cadre du sommeil et de la santé mentale. Alors, schématiquement, donc, le sommeil de la personne âgée, vous savez, c'est quelque chose qui ne va pas trop en s'améliorant. C'est-à-dire que schématiquement, on sait qu'on a, en vieillissant, une modification du sommeil. Alors, il y a des modifications qui sont physiologiques. Par exemple, en vieillissant, on dort moins. Pourquoi ? Parce qu'on a moins de pression homéostasique, un petit peu aussi parce que nos besoins sont réduits. Mais on a aussi, en contrepartie de ça, à la fois pour des éléments de comportement, parce qu'à 70 ans, on a tendance un peu à traiter son sommeil comme à 20 ans, or, c'est pas la même chose. Et puis aussi parce qu'il y a des comorbidités qui font qu'au total, donc, on trouve une augmentation assez linéaire de la croissance des plaintes de sommeil avec le vieillissement, et en particulier chez les patients atteints de démence, et aussi malheureusement chez leurs aidants, il y a un pourcentage très élevé de trouble du sommeil. Alors, il y a deux points d'entrée dans ce fait. Un point d'entrée, c'est la physiopathologie, c'est-à-dire est-ce que les maladies neurodégénératives ont des points d'entrée qui peuvent être associés à la survenue d'un trouble du sommeil, ou est-ce que parce qu'on a développé cette maladie neurodégénérative, on a une dégradation globale de son fonctionnement, ou quand on accompagne un patient qui est atteint de cette maladie-là, on a un niveau de stress psychologique qui s'élève et qui va introduire ces troubles-là. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que même hors des gens qui ont un problème neurodégénératif, il y a un lien fort maintenant entre la dépression et le sommeil. Et auparavant, on avait tendance à voir le sommeil un peu comme une conséquence des pathologies mentales. Or, depuis le Covid, on a énormément progressé, nous aussi, dans la compréhension de la maladie. Et en fait, le sommeil, on peut le percevoir maintenant comme un amortisseur biologique. C'est-à-dire, en quelque sorte, vous avez des comportements qui vous aident à gérer votre santé mentale. Un des déterminants, par exemple, c'est l'activité physique. Un autre déterminant, c'est le sommeil. Ça s'agit sur tout un tas de mécanismes complexes, comme par exemple l'inflammation de bas grade centrale. Et donc, on est en train de montrer qu'il y a toute une série de maladies du cerveau qui reposent sur un mécanisme de mauvaise production des neurotransmetteurs, qui est lui-même en relation avec l'inflammation. Vous savez que le Covid a énormément impacté les populations pour le problème respiratoire, mais aussi pour le problème central. Vous avez entendu parler des Covid longs, peut-être vous en avez eu dans votre entourage. Il y a toute une nouvelle physiopathologie qui apparaît. Et donc, on est en train d'essayer de faire le lien entre toutes ces choses-là, au niveau de la recherche en santé mentale et au niveau de la recherche en neurosciences. Et comme l'a dit Bruno, on progresse énormément dans de multiples dimensions. Et des fois, on arrive à des carrefours, on se dit, tiens, peut-être que là, il y a quelque chose sur lequel on pourrait mutualiser nos efforts. Il y a un autre élément qui est important, c'est qu'on le sait, en vieillissant, on a tendance à vouloir augmenter la consommation médicamenteuse, et ça, ce n'est pas forcément une bonne idée, d'où l'idée de voir si on n'a pas des stratégies alternatives non médicamenteuses qui produisent le même effet, en particulier sur des plaintes comme le sommeil ou la dépression. Alors, je vous l'ai dit, les troubles anxio-dépressifs, c'est des troubles qui sont extrêmement fréquents. Alors, on peut dire qu'ils sont fréquents parce que quand on est seul, on perd son conjoint, on s'isole, on est à la retraite, on ne sait plus très bien quoi faire de sa vie. Mais il y a probablement aussi des mécaniques plus compliquées qui président à l'apparition de ces troubles-là. Et l'altération du sommeil, c'est probablement un élément très important dans le survenue des troubles anxio-dépressifs. On a une application donc, qu'on a lancée qui s'appelle Canopée, avec un K, que je vais vous présenter, et on a montré que si par exemple on remet en route ce qu'on appelle la santé liée au sommeil, qui repose sur la régularité, la durée et la qualité du sommeil, on peut avoir une stratégie préventive de l'apparition des troubles anxio-dépressifs, ce qui est assez nouveau, parce qu'auparavant, on avait plutôt une vision en disant, mais si je traite la dépression, les gens vont naturellement améliorer leur sommeil. On commence à voir que jusqu'à un certain niveau, assez élevé, des gens qui ont des troubles anxio-dépressifs et un trouble du sommeil, ben on peut les arranger en agissant simplement sur la composante sommeil. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de médicaments donnés pour la prise en charge des troubles du sommeil qui vont avoir des conséquences, par exemple, sur l'équilibre avec un taux de chute élevé. Mais aussi, on a montré, il y a beaucoup d'études qui ont fait beaucoup de bruit, des études bordelaises comme ça, où on a montré que la consommation régulière de benzodiazépines pouvait avoir un impact dans le temps sur les fonctions cognitives. Donc, il y a quand même un petit peu un message qui consiste à dire que ce n'est pas forcément une bonne idée de donner tout type de psychotropes, et en particulier les psychotropes anxio-dépressifs, à des personnes âgées. Donc, pour reprendre les propos de Bruno, qui est notre grand maître à tous dans la problématique des personnes âgées, je pense qu'un des éléments très importants, c'est, et nos ancêtres nous l'ont bien appris, mieux vaut prévenir que guérir, c'est toutes les démarches qu'on peut mettre en amont, très tôt, sont des démarches qui vont nous permettre de mettre en place des interventions, peut-être qui ont un impact ou un poids thérapeutique plus limité, mais qui, lorsque le problème est pris très tôt, vont avoir la même efficacité que si on donnait beaucoup plus tard des médicaments de cheval qui vont avoir beaucoup de conséquences. Donc, un élément très important, c'est le repérage, justement, de ces troubles typiques. On peut le faire avec des questions très, très simples, et c'est une des motivations pour lesquelles nous, on a voulu mettre en place des outils de ce type. C'est-à-dire que commencer à s'auto-évaluer, c'est déjà la première marche vers la voie de guérison. Si vous commencez à vous poser la question de dire où est-ce que j'en suis, c'est déjà une façon de commencer à repérer des comportements toxiques sur lesquels vous pourrez mettre des anxios. Alors ça ne marche pas forcément, malheureusement, comme l'a expliqué Bruno, sur des gens anosognosiques, c'est-à-dire qui n'ont pas la conscience du trouble, qui se disent « j'ai pas de problème de mémoire » et qui pourtant sont complètement déjà cérébralisés. Mais dans une part très importante, en particulier pour les troubles de l'humeur, des fois, on a un point d'entrée où on dit ben, « oh, je suis fatigué » ou « alors je dors mal ». On reçoit plein de patients qui nous disent « donnez-moi un médicament pour dormir parce que comme ça, ça va m'aider à affronter la vie ». Nous, très souvent, on a tendance à leur dire « attendez, si vous en êtes au stade où vous n'arrivez pas à affronter la vie à cause du sommeil, il faut peut-être se poser la question de savoir si le point d'entrée, ça va plutôt être « je vais arranger mon humeur », peut-être grâce au sommeil, mais peut-être grâce à d'autres choses. Donc, ces éléments-là, là, c'est des éléments importants dans la façon dont on regarde sa vie, à la fois en tant qu'aider, mais aussi en tant qu'aidant, pour dire, est-ce qu'à un moment donné, j'ai un petit baromètre sur lequel je peux m'appuyer ? Alors, pourquoi c'est important ? Parce que j'ai fait le choix de ne pas en parler d'abord parce que Jacques Taillard n'est pas là, donc comme c'est ses travaux en tant que premier auteur, il serait beaucoup plus adapté pour en parler, mais aussi parce que pour diversifier un petit peu la présentation, nous, là, on va vous faire une présentation très opérationnelle pour vous fournir des outils dans un domaine un peu différent. Mais sachez, comme l'a dit Bruno, qu'il y a des liens très importants qu'on est en train de découvrir entre l'architecture du sommeil et la mémoire. On a découvert, par exemple, il y a assez peu de temps qu'au cours du sommeil, il y avait un principe de nettoyage des protéines produites à l'intérieur des cellules dans la journée. Et donc, il y a un mécanisme de flush, d'accord, d'élimination des protéines dans le liquide extracellulaire au cours de la nuit. Et vous savez qu'une part importante des maladies neurodégénératives sont liées à des accumulations de protéines. Donc, il y a des pistes où il y a une certaine forme d'espoir en se disant ben, peut-être qu'en fait, en boostant les effets du sommeil, on pourrait réduire justement ces accumulations de protéines. Et puis, en contrepartie, on peut aussi imaginer que si le sommeil marche plus très bien, ou en tout cas que les stades de sommeil propres à ce flush-là sont réduits, ben, ça peut être un mécanisme qui pourrait expliquer dans quelle mesure on va avoir ces accumulations de protéines. Et donc, nous, on a montré que certaines altérations, en particulier des marqueurs très précis qu'on appelle les fuseaux du fonctionnement de l'hippocampe, ben, ils étaient associés à l'apparition de troubles très précoces cognitifs. On a fait ça avec la cohorte Memento à Bordeaux, où on a suivi pendant 5 ans des gens en les enregistrant comme ça et en faisant des enregistrements répétitifs. Donc il y a une signature EEG aussi de la maladie neurodégénérative et le sommeil peut être un pourvoyeur d'informations vis-à-vis de ça. Alors, avant le Covid, on en parlait un peu. Après le Covid, on en parle énormément. Vous savez que la grande révolution du 21e siècle, c'est la santé numérique. Vous avez entendu parler de téléconsultations, vous n'arrêtez pas d'entendre parler de ChatGPT. Donc, il y a le développement d'outils numériques et il y a un gros programme au niveau du ministère de la Santé pour développer des outils qui vont nous permettre justement de pouvoir vivre sereinement notre vieillissement avec moins de médecins et avec plus de patients qui vont solliciter des accompagnements. Donc, l'idée de la santé numérique, ce n'est pas de se substituer aux soignants, c'est de venir en complément, mais par contre, ça a certaines vertus. La vertu des téléconsultations, vous l'avez compris, c'est qu'on peut faire de n'importe où une consultation. Donc ça couvre le problème des aires médicaux. Mais il y a aussi un autre problème très important dans le désert médical, c'est qu'il n'y a pas les joueurs. Et donc, nous, notre idée, c'est de développer en fait une brique technologique qui peut se substituer de façon autonome à l'homme. Le caractère autonome est très important parce que ça veut dire qu'on est en capacité d'avoir une mise à l'échelle très importante, c'est-à-dire une fois que l'outil fonctionne de façon autonome, vous le donnez à 1000 malades, 10 000 malades, 100 000, 1 million de malades, ça fonctionne de façon autonome. D'accord ? Alors, il y a plusieurs challenges autour de ça, je vais vous en parler. Bon, il y a le premier challenge, comme avec les médicaments, c'est de dire, est-ce que ce machin fait à peu près la même chose qu'un médecin ? Donc, je vais vous montrer que oui. Et après, il y a une deuxième question qui est vraiment très importante, c'est quels sont les déterminants de l'acceptabilité de ces outils-là. Et donc, on a une part très importante de notre recherche qui vise à comprendre comment on rend une interface homme-machine empathique. Donc, une interface, c'est en gros ce que vous avez devant l'écran. Donc, nous, c'est Louise. Je vais vous la présenter. D'accord ? Et donc, quels sont les déterminants qui vont faire qu'à un moment donné, vous allez engager vis-à-vis de ça ? Donc, on travaille avec plein de gens très différents. Une partie de mon équipe qui sont des psychiatres sont très intéressés par la philosophie. Donc, par exemple, on est en train de travailler avec les Bernardins, qui sont un collège de théologiens, qui travaillent sur la Trinité. Donc, la Sainte Trinité, vous savez, c'est un concept assez élaboré qui vise à étudier le principe de la divinité dans un corps humain. Il semblerait que les catholiques soient très en avance là-dessus par rapport aux autres religions. Donc, l'idée, c'est comment on intègre un non-humain dans un humain. Donc, les gars du Vatican ont une petite expérience là-dessus, c'est en réflexion. Et donc, nous, on est en train de les challenger, justement, sur le fait comment un agent conversationnel peut s'intégrer dans une interface humain-non-humain. Ça paraît trivial, mais c'est quand même assez important parce qu'à un moment donné, en particulier quand on va arriver avec des modèles comme ChatGPT, et on vient de récupérer un petit peu d'argent là, de grands programmes de recherche nationaux, on va passer sur des agents qui vont être dotés de langage naturel, grâce justement à ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models. Et donc, vous allez être en capacité vraiment d'avoir quelqu'un qui va dire « Bruno, tu as bien voyagé, tu as bien dormi hier soir » et d'engager sur un mode très naturel. Donc, il y a tout un tas de questions qui se posent. Et donc, l'idée dans laquelle on est, nous, c'est de dire « Est-ce qu'il y a différents modèles de population qui sont applicables ?» Intuitivement, on a tendance à dire les geeks plutôt jeunes seraient la première cible. Ben, en fait, on a mené beaucoup de recherches et vous allez voir, je vais vous présenter des résultats très intéressants parce que les personnes âgées sont aussi des candidats très intéressants en sachant que donc il y a tout un tas de déterminants qui sont inclus, par exemple le degré de compréhension de la technicité, la capacité d'avoir déjà des outils dans la poche comme ces petits outils-là qui peuvent être des réceptacles de nos agents. Mais en tout cas, il y a une perspective qui est très intéressante. Et donc, Canopé, on l'a mis en ligne au moment du Covid, parce qu'on s'est retrouvé enfermé sans accès à nos malades dans notre unité. On fabriquait des outils plutôt pour suivre des patients qui arrêtaient de se respirer la nuit. Et là, à un moment donné, comme les choses se sont un petit peu ouvertes, vous avez vu, parce qu'on pouvait fonctionner hors circuit administratif et compagnie, et passer un petit peu la première pour accélérer, nous, on a carrément attaqué le ministère de la Santé en disant « Écoutez, nous, on a un truc à mettre en ligne, là, donnez-nous l'autorisation. » Ils nous ont dit d'accord, et donc on a mis en ligne cet agent conversationnel que vous pouvez retrouver maintenant sur le Google Store et l'Apple Store. On a d'ailleurs un soutien maintenant avec l'Agence régionale de santé pour faire des campagnes sur TikTok et Instagram. Il y en a une qui commence dans un mois. Donc pour ceux qui sont sur TikTok et Insta, vous verrez, on a des relais de promotion par rapport à ces agents-là. Et donc l'idée, c'est de voir si on peut faire des dépistages de troubles du sommeil et de troubles anxio-dépressifs avec ces outils-là, avec en particulier une efficacité démontrée dans un premier temps en population générale, mais maintenant, de plus en plus, on essaie de travailler aussi sur des populations ciblées. Alors, l'idée de l'autonomie, c'est que vous êtes en capacité de télécharger l'outil tout seul. Donc, vous allez sur le Google Store, vous appuyez sur le bouton « ça arrive ». Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'attendre le rendez-vous de consultation avec le médecin généraliste qui va vous aider à télécharger l'appli. On réfléchit un peu avec l'ARS et les pouvoirs publics pour voir si, par exemple, un pharmacien où un infirmier, ça pourrait pas jouer ce rôle de relais, en particulier si on est un petit peu altéré. Mais on en avait parlé avec Bruno au moment de la réflexion sur l'appli iCop. Mais il y a une véritable réflexion pour savoir comment est-ce qu'on a accès à ces outils-là. Et une fois qu'on a résolu ce problème d'accès, après, ben, on peut aller un pas plus en avant, et c'est les résultats que je vais vous montrer là, qui est dans le cadre d'une population gériatrique, donc une population déjà un petit peu ciblée, comment est-ce que ça se comporte. Alors, ça, c'est un petit peu des résultats que je vous montre par rapport à ce qu'on a fait. Alors, bon, en fait, je vous la fais courte, mais en 2010, on a eu un gros projet de recherche qui s'appelait l'EquipeX, et dont le titre était Phénovir, phénotypage et réalité virtuelle. Et à cette époque-là, on développait des environnements virtuels, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur la simulation de conduite, et j'ai rencontré des chercheurs californiens qui, eux, avaient travaillé sur le retour des Marines de l'Irak et de l'Afghanistan, où ils avaient été complètement traumatisés par, vous savez, le cas Rambo, où les gens étaient revenus avec des taux de PTSD énormes, et ils avaient travaillé à l'américaine en faisant des stats pour voir combien ils auraient de PTSD qui reviendraient versus combien ils avaient de psychiatres. Et donc ils se sont rendus compte que les chiffres étaient catastrophiques, c'est-à-dire qu'en gros, ils auraient un psychiatre pour 20 000 PTSD ou enfin, un truc dingue. Donc ils ont dit, on va essayer de lancer des programmes, on est allé les voir, et donc on s'est inspiré un petit peu sur ces outils-là, et donc on a mis en place des outils, d'abord en intra-hospitalier pour diagnostiquer. Et on a appris toute cette base-là qu'on a intégrée de plus en plus de façon élaborée dans cette application générique qu'on appelle Canopée. Ça, c'est une publication d'un de mes jeunes élèves, Julien Cuello, qu'on a publié il y a un mois et demi. Et vous voyez, on a fait un modèle très simple, c'est-à-dire qu'on a pris en population générale des gens qui ont téléchargé l'application. Donc Canopée, ça marche de façon assez simple. Vous téléchargez, vous avez une liste de questions pour savoir comment vous dormez, si vous êtes triste, si vous êtes anxieux. À partir de là, on vous fait un premier bilan et on vous propose pendant 7 jours de remplir un agenda. Alors, c'est vous-même qui dites à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche. Alors, vous voyez, on travaille beaucoup avec les technologies. Donc là, j'ai une petite montre WeSing. C'est absolument pas ce qu'on veut, parce que ce qu'on veut, c'est le ressenti. C'est-à-dire 75% des gens, par exemple, qui ont un problème d'insomnie, c'est des gens qui dorment comme des bébés, mais qui ont un défaut de perception du sommeil. Donc nous, ce qui nous intéresse beaucoup, et ce n'est pas parce que je suis psychiatre que je dis ça, c'est la perception, parce qu'en fait, la perception, c'est déjà une première dimension très importante du trouble. Donc on prend ces gens-là, on leur demande de se suivre avec un sleep diary. Donc vous voyez, il y en a 2000, on a extrait un échantillon des 50 000, il y en a 2142 qui ont fait pendant 7 jours le sleep diary. Et après, là, on a un petit outil magique qui reprend les 17 consignes qu'on a en magasin, qui analyse sur les 7 jours à quelle heure vous êtes couché, à quelle heure vous êtes levé, comment vous percevez vos éveils nocturnes, et on fait un programme personnalisé, c'est-à-dire qu'on a une centaine de combinaisons qui arrivent à dire bon, mais toi, je vais te proposer ça, ça et ça et ça. Et donc ce programme personnalisé, il dure pendant 17 jours, et au bout de 17 jours, on refait une analyse du sommeil, d'accord. Et donc ce qu'on a montré, c'est que chez les gens qui avaient un sommeil régulier, il y avait un pourcentage d'insomniaques assez conséquent, bien entendu, parce que vous savez, depuis le Covid, il y a à peu près 60% des Français qui ont une plainte de sommeil dans la semaine qui suit. Donc c'est vraiment très, très élevé. Hein. 60% plainte de sommeil, 28% de troubles anxieux, 18% de troubles dépressifs. Donc vraiment, la plainte psychiatrique, c'est très, très élevé. Donc vous voyez, dans ce petit groupe-là, il y a un pourcentage important d'insomniaques, mais le pourcentage de dépressifs est plus limité, l'ordre de 10%. Si par contre vous prenez ceux qui vont varier les horaires de lever entre la semaine et le week-end, vous voyez, il y a deux fois plus de gens dépressifs. Donc il y a déjà un premier indice qui est un indice de vulnérabilité par rapport à comment vous dormez la semaine et le week-end. Et donc on a mis en place des stratégies thérapeutiques d'entraînement pour essayer d'améliorer justement la régularité du sommeil. Et ce qu'on montre, c'est que chez les gens qui ont réussi à améliorer leur régularité, c'est le petit schéma de droite, vous voyez, il y a une réduction de l'insomnie et de la dépression, alors que ceux qui n'arrivent pas à améliorer leur régularité améliorent en partie leur insomnie, mais par contre ne bougent pas au niveau de la dépression. Donc c'est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire qu'en plus, vous savez, tout le monde est obsédé par la durée du sommeil. On pense que c'est peut-être lié aux marchands de médicaments qui disent « je vais vous donner une molécule qui vous fait dormir 2 heures de plus ». Nous, on sait que vraiment, ce qui est intéressant, c'est les trois, c'est régularité, durée, qualité. Si vous abordez le principe de la régularité, ben en fait, on rentre dans un schéma, vous voyez, on peut aller jusqu'à l'anxiété et la dépression. Donc, c'est des pistes très, très intéressantes, et c'est des pistes d'accompagnement, en particulier pour les aidants, qui peuvent vraiment, vraiment, sur une consigne assez simple, qui peuvent vous aider à vous renforcer et peut-être à vous rendre moins vulnérable à des fluctuations d'humeur quand vous êtes confronté à des choses très dures comme accompagner des gens qui souffrent de maladies neurodégénératives. Donc, l'autre élément intéressant, c'est qu'on a publié dans Nature Digital Medicine, qui est un petit peu le gold standard, enfin, un des gold standards dans la sleep health et dans la digital health, excusez-moi, dans la santé digitale. Et donc, on s'est intéressé à comprendre qu'est-ce qui fait qu'en fait, quand vous parlez avec un agent, vous arrivez à avoir une conversation qui se lit. Alors, on a fait vraiment des centaines et des centaines d'heures d'essais. En particulier, on a fait un essai emblématique que j'ai publié en 2017, où on a pris 300 patients qui venaient à la clinique du sommeil et on a fait en même temps un entretien avec un psychiatre, un entretien avec l'agent. Et le but de l'entretien, c'était de diagnostiquer la dépression. Alors, auparavant, on avait mis 2 ans et demi à fabriquer l'agent et en fait, beaucoup de gens pensent que les diagnostics, ça se fait avec des questionnaires, mais les questionnaires, ça donne juste des indices de sévérité. En fait, un diagnostic, ça se fait avec un entretien clinique, et l'entretien clinique, il est basé sur une liste de questions-réponses qu'on a colligé dans un manuel qui s'appelle le DSM-5, et c'est en fait, si vous avez cet ensemble de symptômes et de réponses à une fréquence et une sévérité suffisante, vous faites le diagnostic. Mais on a fait ça, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui parlaient pendant 45 minutes avec un agent, et à l'époque, je ne vous la montre pas, mais elle était un petit peu comme ça. Elle disait, êtes-vous triste en ce moment? On se disait, on va se prendre des tôles terribles. Ils vont partir de la pièce en disant, arrêtez. Et en fait, quand on a discuté avec les gens, on a compris qu'au bout de la 5e question, si les gens avaient une réponse oui dans la tête, par exemple, êtes-vous triste dans la semaine passée? Oui. Est-ce que vous avez tendance à être anxieux? Oui. Vous est-il arrivé de pleurer dans le mois passé? Oui. Il y avait un mécanisme inconscient qui se mettait en place et qui disait « mais ce machin-là me comprend ». Et une fois que ce machin vous comprend, ça y est. Qui a vu Bambi dans cette salle, le film de Walt Disney? OK? Bon, mais si vous voyez Bambi, vous avez sûrement pleuré à chaudes larmes, d'accord, hein, quand la maman de Bambi est morte. Vous savez que c'est un truc à plat, avec des dessins comme ça, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de pleurer. Mais vous pouvez pas vous empêcher de pleurer parce qu'en fait, à un moment donné, vous faites un transfert cognitif qui fait que même si vous savez que c'est pas réel, vous allez avoir une charge d'activation émotionnelle suffisamment importante pour dire là, c'est terrible ce qui me montre. Mais nous, on a montré à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait qu'on engage avec un agent, c'est ce que les anglo-saxons appellent trust, c'est-à-dire c'est la confiance. Et en fait, la confiance, elle repose sur 2 piliers. C'est très intéressant. On a toute une liste d'items que je vais vous montrer. Mais le premier pilier, c'est la bienveillance. Donc, ça rappelle aussi les principes de l'essence clinique de notre métier. C'est-à-dire que si vous donnez l'image que vous êtes bienveillant, et Louise l'est parce qu'elle parle avec une petite voix, mais elle est très gentille, elle dit qu'elle a l'écoute de vous, que vous pouvez répéter si vous n'avez pas compris la question. Elle va répéter si vous n'avez pas compris la question. Le premier principe, c'est la bienveillance. C'est-à-dire la façon dont on considère que l'agent va être à votre écoute. Et le deuxième principe, donc vous voyez, il y a vraiment un score très positif pour nous sur cet élément-là. Et le deuxième élément qui est très important, c'est la crédibilité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Donc si vous arrivez à élaborer un programme qui est perçu comme crédible, et c'est tout le propos d'être ici, où nous, on est là, professeur, nanana, et on vous dit, c'est vraiment l'université, le CNRS qui a développé ça. Mais si vous avez une masse critique de crédibilité et qu'en même temps, l'outil vous apparaît bienveillant, ben vous engagez. Donc, le point, ça, c'était en population générale, hein, sur des gens qui venaient consulter à la clinique du sommeil. Et en fait, le papier a été accepté parce qu'on a fait carrément comme sur des tests de température, des courbes ROC, avec des mesures de sensibilité et de spécificité. On a montré qu'on avait de très bonnes réponse de sensibilité, de spécificité par rapport à ces éléments-là. Donc, une fois qu'on a dit ça, nous, on s'est dit, tiens, c'est marrant, est-ce que maintenant, on pourrait essayer d'aller un petit peu ailleurs? Et donc, on travaille beaucoup avec Nathalie Salle, qui n'est pas là, je pense, parce qu'elle est très occupée aussi, mais bon, on a accès à une population de gériatres, on démarre une thèse avec un de ces PH là-dessus, sur lequel, je pense, peut-être, on pourra collaborer avec vous, Bruno et Vincent. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des gens en EHPAD et ils ont dit, est-ce qu'on peut présenter à ces personnes-là, qui sont âgées dans un contexte assez quand même contraint, ces outils et comment est-ce qu'ils vont les percevoir? Donc, c'est une étude, hein, c'est le démarrage, mais c'est assez intéressant. C'est une étude sur des gens qui ont 70 ans et plus, avec une répartition homme-femme équilibrée. C'est des gens qui sont en EHPAD. Alors, on a été gentils avec eux, on n'a pas présenté un petit téléphone comme ça, on a présenté une petite tablette comme ça, d'accord, un petit peu plus grande. Vous comprendrez pourquoi, parce que c'est un élément d'importance après. Et en fait, ce que montrent nos résultats, c'est que finalement, sur 72 patients à qui on a présenté l'étude, il y en a quand même 50 qui ont accepté. Donc, c'est un taux d'acceptation qui est déjà très intéressant parce qu'on se demandait quel taux de réussite on aurait. L'autre élément qui est important, c'est donc, je vous l'ai dit, le sex ratio, d'accord, avec des scores de pathologie associée, c'est ce fameux score de Chanson qui n'était pas neutre, d'accord. Et donc, vous verrez que ça a vraiment son importance dans les résultats. Et donc, si on regarde, vous voyez, les résultats chez la personne âgée, c'est très intéressant parce qu'on retombe pratiquement de façon identique à ce qu'on voit sur les personnes adultes. C'est-à-dire, on pouvait se dire que les personnes âgées, elles voudraient pouvoir avoir accès à un médecin réel. Et en fait, pas tellement. Et quand on a discuté derrière elles, par exemple, un des éléments qu'elles ont mis en avant, c'est de dire, ça, c'est pas mal parce que ça peut me garder de l'autonomie. C'est-à-dire, si chez moi, je suis toute seule et qu'à un moment donné, j'ai une question à poser, ben, je peux appeler Louise toute seule. Je parle déjà avec mes enfants, avec la tablette. Vous savez, il y a plein d'applications qui ont été développées comme ça. Et donc, c'est des outils sur la perception de l'autonomie qui ont été très, très bien perçus. Et donc, nous, on pense que c'est vraiment intéressant de commencer à réfléchir pour voir si on peut donner des outils complémentaires de ce type, avec ces marqueurs-là de bienveillance et de crédibilité. L'autre élément intéressant, c'est qu'on a regardé un petit peu qu'est-ce qui pouvait bugger dans l'usage. Et le point intéressant, c'est que vous voyez, l'existence de troubles sensoriels, c'est un élément très important à prendre en compte. Donc peut-être que quand on va développer des nouveaux outils numériques, le fait par exemple d'avoir une audition qui n'est pas parfaite ou une vision un peu troublée, ça peut jouer sur l'interaction avec l'agent. Donc il y a peut-être aussi une idée de commencer à développer des agents virtuels un peu customisés. Et puis il y a un autre point qui est ressorti, mais on pense que c'est un effet biaisé par d'autres facteurs, où a priori les gens qui avaient un peu plus d'insomnie étaient un peu moins enclins à utiliser les outils, mais on a revérifié les analyses et en fait, on pense que l'élément le plus important pour l'instant, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal comme mon collègue, c'est vraiment de se baser sur un outil dont le taux d'acceptabilité est très satisfaisant et sur lequel peut-être il va falloir adapter par rapport à l'usage. Donc, une fois qu'on accepte l'idée que la personne va pouvoir utiliser des outils numériques, ce n'est pas finalement le côté dans la tête, je vais me servir d'un outil, c'est si je suis capable, je vais engager. Donc ça, c'est super intéressant pour nous. Il y a aussi cet élément de comorbidité sur le score de Chanson qui fait plus vous avez de maladies, plus c'est compliqué. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire aussi en fonction de ces éléments-là. Il y avait des éléments, par exemple, moteur, un peu si on manipule la tablette, si c'est très compliqué, c'est un peu complexe. Donc on est en train d'y travailler là-dessus. Voilà. Et donc, les perspectives, c'est, je pense que pour les aidants, il faut essayer de développer au maximum l'application, parce que ça, c'est population générale, c'est téléchargeable, canopé, c'est facile, et c'est vraiment très, très utile. Si vous avez des questions complémentaires, on a développé un compte Instagram, parce qu'on a plein de geeks dans l'unité, donc ça s'appelle pr.philippe. Vous allez sur Instagram ou TikTok, et vous verrez, il y a plein d'informations, et dedans, on a mis les liens pour aller télécharger les applications. PR, comme professeur.philippe. Le deuxième élément, c'est que on se dit, en lien avec tout ce que nos amis ont présenté aussi, que le plus tôt on peut identifier ces marqueurs-là, comme ça, de stress psychosocial ou de vulnérabilité au sommeil, le plus tôt ça sera une indication pour essayer d'aller voir un petit peu comment est-ce que les gens évoluent. Et puis on pense aussi que donc dans les travaux futurs, il y a peut-être des éléments importants à travailler avec les mutuelles, avec les assurances, avec tous les gens qui sont inscrits dans la prévention pour voir comment est-ce qu'on peut faire du repérage le plus tôt possible. Et nous, on vient d'être signés dans le PEPR Propsy, qui est un grand programme de recherche où on va avoir une cohorte de 3000 patients dépressifs et schizophrènes qu'on va suivre un peu comme vous faites avec l'imagerie, la biologie, la génétique. On déploie donc Canopé sur ces 3000 personnes avec des objets connectés et on pense que le futur de la médecine de précision, ça va aussi passer par ces mesures écologiques comme ça, voire par des interventions. Je pense que ça serait très intéressant de voir si on ne peut pas avoir des outils très simples de repérage. C'est un peu l'idée d'ICOP. Nous, on a pas mal progressé là-dessus. Voilà. Donc, moi, je pense que s'il y a des gens, des mutuelles et des assurances, ne sortez pas. on va piquer vos portefeuilles et vos cartes de crédit parce qu'on a besoin d'énormément d'argent pour continuer à faire ça. Mais peut-être on pourrait vous en faire gagner quand même, parce qu'on a montré que quand on améliore le sommeil, les gens vont beaucoup mieux. Et puis je pense que ben, dans la réflexion générale qu'on a au niveau du Neurocampus avec Bind, l'idée de développer ces programmes de prévention partagée en intégrant la santé mentale, c'est finalement quelque chose qui fait du sens pour tout le monde, à la fois pour les gens sains qui sont confrontés à aider les personnes, et puis pour les gens malades qui sont dans un circuit de prise en charge. Donc voilà, je pense que s'il y a un message à retenir, c'est que le sommeil, c'est peut-être un élément de prévention important, et il ne faut pas hésiter à le développer. Voilà, je crois que c'est ma dernière diapo. Voilà, merci beaucoup.